Direct en jeu, la radio insolite. Imaginez la vocation. Imaginez. Je l'ai en photo face à moi. Parce que, bon, évidemment, on est en radio, donc on n'est pas l'un face à l'autre. Imaginez. Elle est tombée dedans quand elle était toute petite. Mais vraiment, quand je dis toute petite, toute petite. À l'école primaire, imaginez. Elle participait aux ateliers de théâtre. Bonjour, Clara.
Bonjour.
T'as pas grandi depuis.
Eh ben, si, j'ai bien grandi et la passion aussi a grandi en même temps que moi, mais elle est toujours là.
Ah ben pourtant, moi j'ai trouvé, comment dire, une info, disons que tu restais toujours la grande gamine qui vivait de ta passion.
Bon, c'est un petit peu ça, disons qu'après des études plus sérieuses dans le cadre classique, je suis partie de ce cadre-là et que maintenant je vis de ma passion et je me bats aujourd'hui pour le faire rayonner au maximum.
Alors, j'avais l'intention de ne pas te louper quand même pour tes études très sérieuses, parce que quand même, après ton bac, tu voulais commencer à rentrer dans ce milieu-là, mais tout compte fait, t'as un papa et maman, ils ont dit non, mais il faut que tu aies, on va dire, un métier sérieux, quoi.
C'est ça, depuis toujours, j'ai voulu... Ma mère m'a dit que je lui avais dit que je voulais faire comédienne, ou être en tout cas dans ce milieu-là, quand j'avais à peu près 4 ans. Et ça remonte maintenant. Et puis, quand j'ai eu mon bac à 18 ans, j'ai dit que je voulais toujours faire du théâtre. Et puis, ils m'ont dit, ils étaient un peu plus frileux que moi. Mmh. Et on a passé un deal tous les trois ensemble avec mon père et ma mère. C'était décroche un diplôme dit de sécurité. Et ensuite, quand tu l'auras, si tu le souhaites toujours, on t'accompagnera pour faire du théâtre. Et donc, j'ai décidé de partir en droit. Voilà, donc j'ai fait du droit, j'ai eu mon diplôme en droit, et puis je travaillais dans un cabinet d'avocat en stage les étés.
Wow.
À l'issue de mon diplôme, j'ai été allée à fond. Quand je décide de faire quelque chose, en général, j'essaie quand même d'y aller à fond. Et puis c'était quand même une branche qui me plaisait, hein. J'avais pas pris ça par dépit. De toute façon, je pense qu'on ne prend pas le droit par dépit.
Non.
Et puis, j'ai eu mon diplôme et puis mes avocats m'ont proposé un poste à 23 ans en CDI, en juriste en droit des affaires. Mmh. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que soit je disais oui, j'avais tout un avenir tracé, dans 7 ans, je pouvais être avocate par la voie interne, mmh, les équivalences d'acquis, soit je disais non et je reprenais tout à zéro et j'essayais de faire de ma passion mon métier. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne le regrette absolument pas.
Alors, ce que j'ai mis en plus, c'est qu'à un moment donné, dans une interview, tu as répondu à un journaliste. Si j'avais pas refusé cette proposition d'embauche, si je n'avais pas décliné cette proposition d'embauche, j'enterrais tous mes rêves et j'aurais eu des regrets toute ma vie. Tu étais déjà lucide, dis donc. Hein.
Oui, mais parce que je sentais, je pense que c'est dans les tripes à un moment donné, et puis je voulais pas partir dans quelque chose de plus classique et même économiser, et puis parce que je savais que j'allais m'enliser dans quelque chose qui allait être beaucoup plus difficile à quitter, mmh, quand ça fait déjà quelques années qu'on est dans le milieu, que à l'obtention du diplôme et se dire bon, en réalité j'ai rien de concret, j'ai pas construit quoi que ce soit autour de mes études de droit, donc c'était plus simple pour moi, enfin entre guillemets, parce que partir et refuser une proposition d'embauche en juriste en droit des affaires, c'est pas simple, entre guillemets, mm-hmm, mais c'était nécessaire pour moi et j'ai expliqué ça à mes parents, je leur ai fait part de mes envies, de mes inquiétudes, mais aussi de ma volonté de réussir là-dedans. Et à ce moment-là, ils m'ont tendu la main et moi, je n'ai plus pu à la prendre. Et puis ensuite, ils m'ont dit, bon, bah, d'accord, tu veux faire du théâtre, mais tu pars à Paris, par contre. Ils sont débarrassés de moi comme ça.
On veut plus de toi. Oui, parce que non seulement tu fais 5 ans d'études en droit, et en plus après, tu vas directement dans la Mecque du théâtre, et tu te prends 3 années de plus, puisque tu fais le cours Florent.
Exactement.
Le théâtre, ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est le fait de s'exprimer sur scène, c'est le fait d'être confronté à un public, c'est le fait que c'est jamais la même chose tous les soirs?
Alors, bien sûr, il y a ça. Ça, c'est ce qu'on voit en, en premier abord, c'est ce qui m'a plu de suite, c'était le jeu, c'était d'incarner, d'être dans des histoires. Et ça nous réunit tous, je pense, quand on fait du théâtre. Mais c'est surtout, je pense, plus profondément les autres, la rencontre avec les autres et ce qu'on vit. Ce que nous offre le théâtre en termes de liens amicaux et humains, je trouve que c'est très difficile de le retrouver dans d'autres milieux. Non pas que c'est impossible, mais moi, je ne trouvais pas un autre milieu qui m'apportait ça. Et en fait, ce qui me plaît énormément aujourd'hui, c'est les répétitions, c'est rencontrer des gens, c'est galérer, c'est partager mes joies, mes peines. C'est plus ce côté-là. Je sais que je m'étais posé la question il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que ce qui m'avait vraiment donné envie de faire du théâtre et du cinéma et d'être dans ce milieu-là, j'adorais, moi j'ai grandi avec les films, avec les bêtisiers à la fin. Et les bêtisiers, ça me confortait dans cette envie d'y aller parce que je trouvais que c'était extraordinaire de pouvoir autant vivre de choses sur une scène de théâtre, mais aussi en coulisses, parce qu'on a le spectacle qu'on a sur scène, mais il y a aussi le grand spectacle des coulisses. Ben il y a tellement de choses qui se passent en coulisses. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien, c'est les autres.
Et alors là, tu te refuses rien, puisque non seulement tu as été coup de cœur du Festival d'Avignon 2025, tu as eu, pas beaucoup, quoi, quelques petites nominations au Cyrano pour le meilleur spectacle au public, pour le meilleur auteur vivant, pour la meilleure mise en scène et la meilleure scénographie. Bon, c'est tout, tu te refuses rien, quoi, carrément.
J'espérais avoir une nomination quand on a été rendu éligible au Cyrano. J'espérais avoir une nomination et je suivais en direct... les nominations qui tombaient petit à petit, et puis j'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois, j'en vois quatre, et je trouvais ça extraordinaire de me dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et le spectacle plaît autant majoritairement au public, mais aussi à tous les professionnels qui ont eu la gentillesse de venir nous voir. Et donc j'en suis très heureuse, la cérémonie n'est pas encore passée, donc j'attends de savoir si oui ou non, on remportera un prix, mais qu'importe le résultat, les nominations et tout ce que ça nous a fait vivre aussi dans l'équipe, parce qu'on l'a partagé, tous ensemble, ça, j'ai déjà gagné, quoi.
D'accord. Alors là, on est dans le théâtre contemporain. Je vais donner le nom de la pièce. Ça s'appelle Hubris. C'est quoi, Hubris?
Alors, Hubris, c'est un concept grec. À l'origine. Pour donner un indice, on l'entend beaucoup en politique en ce moment. Oui, vachement.
Ouais, j'allais dire, il n'y a pas qu'en ce moment. Enfin bon.
c'est intemporel, mais disons qu'on l'entend beaucoup à la télé et dans les interviews politiques et dans les critiques politiques aussi. C'est l'art de la démesure, en fait. C'est l'homme persuadé d'être un dieu. Donc il y a peut-être quelques figures qui peuvent se dessiner dans l'esprit de chacun. Et en fait, c'est ça, Hubris. Je me suis inspirée de l'Iliade d'Homère pour parler de notre monde d'aujourd'hui et surtout donner une vision plus humaine de l'épopée grecque, puisqu'on n'a pas le conflit gréco-troyen sur scène, mais on a en fait toute la conséquence de ceux qui décident de la guerre et de notre quotidien sur les liens humains, c'est-à-dire nous, les humains, les hommes, les femmes. Et c'est de ça dont parle Hubris et qui remet aussi au centre la parole des femmes, puisque dans l'épopée, elles sont très importantes, mais elles ne parlent que trop peu. Et donc moi, je leur ai donné la parole et il y a tout un récit autour d'elles également.
Ah oui, donc c'est carrément, comment dire, c'est le message intemporel. C'est nous avons le droit d'exister, quoi.
Alors, je n'avais pas écrit avec ça en tête, c'est ce qui s'en est dégagé. Je ne veux pas prendre le rôle de messager. Ben, je ne veux pas cette responsabilité-là. Mais il s'avère qu'effectivement, c'est en fait une histoire qui date de milliers d'années, qui est à l'origine un chant. Et en fait, aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, qui de mieux que les Grecs pour parler de nous ?
Oui, pourquoi pas. Oui, c'est... mais les Grecs d'aujourd'hui ou les Grecs d'hier ?
Les Grecs d'hier, les Grecs du chant, les Grecs qui ont un peu donné les textes fondateurs d'aujourd'hui.
Ah oui,
ils n'avaient pas tort.
D'accord, okay. Bah, parce que je suppose que les Grecs n'ont pas inspiré le droit, quand même.
Non, il n'y a pas, c'est pas, oui, c'est tu... pas eux spécifiquement, mais tu ils peux... ont eu quand même quelques influences.
D'accord, ok. Alors, ce qui est bien, c'est que en plus, tu te refuses rien, puisque non seulement tu écris, en plus tu mets en scène, une pensée pour les pauvres comédiens, en plus tu es sur scène. Oh là là, mais oui. Alors, il y a de la place pour les autres ?
Eh bien oui, parce qu'à l'origine, il faut savoir que quand j'ai écrit et mis en scène Hubris, je ne jouais pas dedans. C'était une volonté, en fait, non pas de ne pas jouer, puisque c'est quand même ma formation première, c'est le jeu. Mm-hmm. Mais c'est surtout que ben, je, quand j'ai créé la pièce, je n'ai pas le recul pour me mettre en scène. Et puis, je n'ai pas l'expérience et j'en avais pas l'envie non plus, parce que je suis très attachée à la mise en scène. Et puis, il s'avère que lors de notre deuxième exploitation parisienne, il y a 2 ans déjà, la comédienne qui jouait le rôle de Tétis est partie vers d'autres horizons pour d'autres projets professionnels. Mmh. Et puis, on est resté en très bons termes. Je l'ai déjà revue en plus au Festival d'Avignon l'année dernière. Et en fait, c'est à 2 mois de la première. Et on était déjà en train de former une nouvelle comédienne sur un nouveau rôle. Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même le rôle que j'aurais aimé avoir si j'avais passé un casting pour Hubris. Ça me manque de jouer parce que du coup, je suis vachement sur l'écriture et la mise en scène. Mmh. Le texte et le jeu et la mise en scène sont déjà créés. Bon, disons que je n'avais plus qu'à enfiler les chaussures d'une autre, quoi, et de les faire à mes pieds. Et c'est ce qui s'est passé. J'en ai parlé à mon équipe. Ça a été plus une décision collective.
D'accord.
Et puis, je regrette pas parce que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être hyper soudés les uns avec les autres et de pas avoir cette scission metteuse en scène, comédien qu'on peut naturellement
exactement
retrouver.
Mmh.
Et donc, aujourd'hui, là, je travaille également sur ma seconde pièce et je suis pas dedans. Je reste sur l'écriture et la mise en scène.
D'accord. Alors, ce qui va être embêtant au mois de juillet, c'est qu'à cause de toi, on ne pourra pas faire la sieste.
Ah oui, 14h55, c'est le début du bris.
Ah bah oui, c'est pas bon. Hein. Tu vas jouer à l'espace Roseau Teinturier
oui.
Tous les jours, sauf le jeudi, pendant ce marathon. Tu reviens en Avignon, on est bien d'accord ?
Oui, c'est ça, bon. Je reviens.
Quand tu l'as fait une fois, pourquoi on le fait 2 fois ?
Eh bien, parce que la première fois, c'était important pour moi de... Je voyais qu'Hubris, déjà à Paris, trouvait un écho et surtout des retours très positifs, un accueil très chaleureux du public. Étant avignonnaise, je ne pouvais pas ne pas aller au Festival d'Avignon. Mmh. J'ai grandi avec le rythme du festival, l'effervescence que ça représente. Déjà, en tant que spectatrice avignonnaise, j'en étais amoureuse, mais alors en tant qu'artiste, c'est encore plus fou de le vivre à l'intérieur. Et puis, mon équipe, je leur ai posé la question. J'ai surtout pas imposé, parce qu'Avignon, ça reste quand même une aventure très spéciale et très fatigante.
Ah,
et il faut se sentir de le faire.
Mmh.
Tout à fait. Et eux m'ont dit qu'ils étaient super partants et qu'ils étaient complètement enjoués du projet. Et donc, je me suis dit, bon, Hubris est assez solide parce qu'on venait déjà de faire quasiment 50 dates à Paris. On avait la pièce dans les pieds et on voulait encore plus le faire évoluer. Donc, on est parti à Avignon. Et en fait, ça a été une magnifique surprise parce qu'au bout du 4e jour, on était complet. On a eu un très bel accueil. On a eu fait un très, très bel Avignon l'année dernière. Et donc forcément, quand ça se passe bien une fois, on se dit oh, « on veut y retourner ». Donc on y va confiant, mais pas aveugle. Donc on prépare très sérieusement et on met tout en œuvre cette année également pour refaire un Avignon aussi magnifique que l'année dernière. Et en plus de ça, on a la chance d'être cette année aussi aux espaces Roseau Teinturier en salle 1, qui est une salle que je convoitais depuis quelques temps déjà. Donc voilà, c'est vraiment une aventure. On a très hâte. On a confiance et en même temps on est très excité et on a un peu peur aussi.
Mais c'est bien, ça c'est une très, très chouette chose. Donc ça va se jouer, comme j'ai dit, du 4 au 25 juillet, tous les jours à 14h55, sauf le jeudi. Il va y avoir de quoi se régaler, n'hésitez pas à vous faire plaisir. On peut retrouver la présentation du spectacle sur un site internet peut-être ?
Oui, on peut le retrouver. Nous avons un compte Facebook, oui, ça c'est sûr, on l'a. Mais aussi un compte Instagram qui est Compagnie Pezzo et c'est toutes nos actualités et tous les dessus et les dessous aussi de notre équipe et de nos projets. Et le site internet est en cours de traitement déjà dans mon cerveau et peut-être un jour il sortira, mais pour le moment je n'en ai pas.
D'accord, et je vais finir par un peu d'humour en disant que vous avez un autre site internet qui peut vous permettre de découvrir la pièce, c'est le site internet du Festival Off d'Avignon. Je rappelle juste qu'il y a beaucoup de spectacles dessus. Ça c'est une petite plaisanterie qu'on m'a fait la semaine dernière. J'ai été voir, je crois que pour le moment il n'y en a que 250 à 300 de présentés, donc il y a de quoi faire pour descendre toute la liste, et je crois que cette année au total il y en aura à peu près 1800. Donc si vous n'avez pas quoi faire pour vous occuper, prenez carrément une journée ou un week-end pour pouvoir vous avaler tout le programme du festival. Merci à toi. Exactement. Merci à toi d'avoir pris ces quelques minutes pour présenter tout cela et puis évidemment plein de bonnes choses pour cette préparation.
Ben, merci à vous, c'était un plaisir et puis à très bientôt, je l'espère.
Avec plaisir, merci.